La première, podcast.
Le Forum de Midi. Le Forum de Midi. Fabienne Vandemerge.
Bonjour, bienvenue dans le Forum de Midi. Nous allons parler du ciel avec vous aujourd'hui et de la pollution lumineuse en particulier, cette pollution lumineuse qui nous empêche de plus en plus de voir à l'œil nu ce qui se passe dans le ciel. Par exemple, pour 3/4 des Belges et 1/5 de l'humanité d'ailleurs, il n'est plus possible de voir la Voie lactée. Ceci à cause des quantités astronomiques, c'est le cas de le dire, de lumière, que ce soit les éclairages publics ou les éclairages sur les autoroutes ou autres, qui parasitent donc les observations, y compris pour les astronomes d'ailleurs, et ce malgré leurs instruments très performants. Alors cette pollution lumineuse, elle cause aussi des dommages parfois irréversibles à certaines espèces animales et à la flore. Et donc, une nuit de l'obscurité est organisée ce samedi 15 octobre. Et voilà pourquoi nous parlons de ce sujet avec vous aujourd'hui. On parlera aussi de l'expansion de l'univers qui ne cesse de s'accélérer. C'est une découverte qui a valu le prix Nobel de physique il y a quelques jours à 3 astronomes. Alors n'hésitez pas à nous faire part de vos questions et de vos réflexions aussi sur ces sujets dans le forum de ce midi.
Vos avis, questions et commentaires au 02 737 37 07 ou sur lapremière.be.
Et je vous présente tout de suite les deux invités qui vont pouvoir répondre à toutes vos questions sur ce sujet. Emmanuel Jehin, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes astrophysicien, vous êtes chercheur qualifié au FNRS et vous enseignez à l'Institut d'astrophysique et de géophysique de Liège, de l'Université de Liège. Vous êtes aussi dans le groupe Astronomie de Spa. Vous emmenez chaque vendredi soir, hein, je pense.
C'est ça.
Voilà, des astronomes et des astronomes amateurs.
Tout à fait.
Oui, pour observer le ciel. Et à vos côtés, il y a aussi Francis Vanterre. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Alors, vous êtes président de l'Association pour la sauvegarde du ciel et de l'environnement nocturne. C'est ce qu'on appelle, en allant vite, l'ASEN ou l'ASKEN. Voilà. Alors, sur votre site, sur la page d'accueil de votre site, monsieur Vanterre, il y a une déclaration de l'UNESCO. Le ciel étoilé fait partie intégrante du patrimoine mondial à préserver. Ça date de 92, cette déclaration de l'UNESCO. Est-ce que vous avez le sentiment que tout le monde a bien ça en tête ?
Non, pas du tout. Non, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est plutôt l'inverse. Mm-hmm. La pollution lumineuse est un phénomène de pollution qui augmente très fort, hein, 5 à 10% par an. Mm-hmm. Et en Belgique, bon, on fait partie des champions du monde en matière de pollution lumineuse.
Mm-hmm. On éclaire énormément oui. Les autoroutes.
Les autoroutes, mais aussi tous les villages, tous les hameaux. En France, par exemple, il existe encore des villages qui ne sont pas éclairés. En Belgique, il faut bien chercher. Hein. Mm-hmm. Je ne pense pas qu'il en existe. Certains éteignent, il y en a quelques exemples, mais c'est très très rare.
Avec votre groupe d'astronomie ASPA, Emmanuel Jehin, est-ce que vous aussi, au fil des années, vous voyez des difficultés de plus en plus importantes à observer le ciel ?
Oui,
à l'œil nu, je veux dire, parce que dans le cadre de vos recherches, alors là, vous avez des instruments très très performants,
oui,
mais
oui.
À l'œil nu, ça devient compliqué.
Tout à fait. Bon, les astronomes professionnels, il faut savoir, ça fait plus de 50 ans qu'ils ont déserté la plupart des endroits d'Europe, d'ailleurs, à cause de ce problème de pollution lumineuse, pour aller se réfugier avec leurs observatoires le plus loin possible de la civilisation et dans des sites tout à fait exceptionnels où il fait beau quasi toute l'année. Alors, c'est vrai que le groupe Astronomie de Spa, par exemple, ça fait plus de 20 ans que nous observons le ciel et nous avons constaté au fur et à mesure des années, et maintenant nous le mesurons même depuis quelques années, la dégradation de la qualité du ciel. Comment est-ce que ça se manifeste ? Ben, c'est tout simple, c'est vous voyez de moins en moins d'étoiles, vous voyez de plus en plus difficilement la Voie lactée. À Spa, nous avons encore la chance d'avoir un ciel relativement préservé et tous les mois d'août chaque année, depuis 20 ans, nous invitons les gens à venir admirer le ciel nocturne parce que c'est tout simplement magnifique. Et je suis toujours étonné, évidemment, d'avoir des gens d'un certain âge qui viennent et qui nous disent « Ah, c'est ça la Voie lactée, je n'avais jamais vu, etc. » Ben, malheureusement, c'est vrai que petit à petit, on continue à mesurer une dégradation de la qualité du ciel nocturne.
Alors, on va en parler plus en détail parce que ce sera vraiment le sujet, je dirais, principal de cette émission, étant donné aussi cette nuit de l'obscurité qui a lieu samedi. Mais je disais dans l'introduction, j'évoquais le prix Nobel de physique dans introduction. Donc, il y a 3 astronomes qui ont reçu ce Nobel de physique la semaine dernière pour la découverte de l'expansion accélérée de l'univers sous l'effet d'une énergie noire. On a tout de suite déjà un premier commentaire sur notre site à ce sujet de Michel qui dit « Le Big Bang résulte d'un modèle théorique, dit-il, basé sur une extrapolation à l'échelle de l'univers d'équations valable à notre échelle. Ce modèle a montré qu'il est valable jusque quelques milliards d'années. Des découvertes des prix Nobel de cette année ont déduit que la théorie qui a conduit au modèle du Big Bang doit être revue. Le futur nous dira si le Big Bang reste plausible. Quelle est votre réaction, Emmanuel Jehin, à ce mail de Michel sur notre site?
Alors, je ne suis pas sûr que la théorie du Big Bang elle-même doit être mise en cause. C'est-à-dire qu'il y a de nombreux faits observationnels qui montrent qu'il y a eu un début à notre univers. C'est-à-dire quand on remonte dans le passé, on se rend compte que toutes les galaxies qui s'éloignent aujourd'hui de nous devaient se retrouver toutes proches les unes des autres. C'est une découverte qui a été faite il y a un siècle par Edwin Hubble quand il s'est rendu compte que toutes les galaxies s'éloignaient les unes des autres. Il y a d'autres preuves, on va dire matérielles, si je puis dire observationnelles, de la réalité de l'expansion de l'univers et donc de la théorie du Big Bang. Ici, plutôt, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, c'est une modification en quelque sorte qu'il faut amener à ce modèle et notamment ce qu'ils ont découvert il y a finalement pas si longtemps que ça, puisque c'est une découverte qui date des années 90 et qui montre que l'astronomie tous les jours, on fait des découvertes très importantes. Ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que ces galaxies, en fait, s'éloignaient de plus en plus vite les unes des autres, plus elles étaient loin. Mm-hmm. Que donc, en fait, notre univers est en expansion accélérée. Et le problème, c'est que d'où vient cette accélération supplémentaire mise à l'expansion de l'univers? Et alors là, les astronomes se creusent la tête et les physiciens aussi de la physique des particules pour essayer de trouver une explication qui pourrait résider peut-être dans la théorie de la relativité d'Einstein, par exemple, amener des modifications à nos théories, en effet, ou peut-être, de fait, par la découverte de particules élémentaires que nous ne connaissons pas encore aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir que cette énergie noire, comme on l'appelle, parce que, bon, on ne sait pas l'identifier, on ne l'a pas encore identifié.
On l'appelle aussi énergie du vide.
Énergie du vide, exactement, parce qu'elle semble surgir de nulle part. Cette énergie, en fait, représenterait 3/4 de la masse totale de l'univers.
Oui. Alors, voilà, 3/4 de la masse totale. Lors de la présentation du prix de physique, le comité Nobel a dit la découverte de cette expansion la découverte que cette expansion s'accélère est ahurissante et si cela continue, l'univers terminera dans la glace. C'est ce qu'ont dit les gens du comité Nobel. Comment est-ce qu'on doit comprendre ça? Est-ce qu'on doit avoir peur déjà d'abord?
On ne doit pas avoir trop peur parce que c'est pas pour tout de suite. Ce sont sur des échelles énormes en milliards d'années dont on parle. Il faut imaginer puisqu'on a parlé du Big Bang au début de l'univers, donc il y a à peu près 15 milliards d'années, toute la matière, toute l'énergie qui constitue aujourd'hui les milliards, les centaines de milliards de galaxies, d'étoiles, était concentrée dans une région qui était plus petite qu'un point mathématique, qui avait la taille d'un point mathématique, donc une fournaise énorme, qu'aujourd'hui, avec l'expansion, la température, je vais dire, de cette époque, a fini par décroître de plus en plus. Mais aujourd'hui, si on met un thermomètre dans l'espace, un thermomètre particulier, on pourrait mesurer qu'il y a une petite température chaleur résiduelle dans l'univers de l'ordre de 3 degrés Kelvin au-dessus du zéro absolu. Oui. C'est en fait en quelque sorte la chaleur résiduelle comme si vous faites exploser un pétard dans une enceinte confinée, il va rester une petite chaleur résiduelle. Si cette enceinte confinée s'étend, fatalement la chaleur va diminuer. Mm-hmm. C'est ce qui se passe actuellement. La température dans l'univers diminue progressivement. Donc cette chaleur résiduelle de 3 degrés Kelvin est également une de ces preuves observationnelles que le Big Bang a bien eu lieu. Et là, ce qu'on veut dire, c'est que avec cette expansion accélérée de l'univers, un jour, l'univers va être complètement glacé, glacial. C'est-à-dire que les galaxies vont tellement s'éloigner les unes des autres que d'une galaxie donnée, on ne verra plus aucune autre galaxie. Et que la température résiduelle dans l'univers va être extrêmement froide. Puis les étoiles, bien sûr, vont finir par s'éteindre les unes après les autres. Et on va terminer donc avec un univers mort, en quelque sorte, formé d'étoiles mortes. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut exclure un modèle de l'univers qu'on en considérait encore il y a une certaine époque. C'est celui du Big Crunch, où on pensait à un moment que l'univers pourrait être cyclique, c'est-à-dire après une période d'accélération, finalement se recontracter sur lui-même, éventuellement réexploser, se recontracter, etc. D'après les observations actuelles, ça ne va pas se passer.
Un dernier mot sur ce Nobel. Donc un des Nobel de physique donc a déclaré, nous avons créé une énigme encore plus grande plutôt que d'apporter des réponses aux interrogations que nous avions. Donc ça veut dire que l'astrophysique a encore de beaux jours devant elle, Emmanuel Jehin.
Absolument, ça c'est la science en mouvement. C'est vraiment ce qui est agréable dans ce métier, c'est que vous découvrez quelque chose, puis en fait vous cherchez à découvrir quelque quelque chose. Et puis, en fait, c'est sur quelque chose d'autre que vous tombez. Et là, en effet, ils ont levé un l'appât énorme. Ça leur a d'ailleurs valu le prix Nobel en seulement 20 ans.
Voilà. Alors, nous aurons d'autres occasions, j'imagine, de parler encore des suites de ce Nobel. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la pollution lumineuse. Et nos auditeurs nous envoient déjà quelques questions sur le sujet. On va aborder ces questions dans un instant. Ce sera juste après ceci.
Vos avis, questions et commentaires par SMS au 6031, 50 centimes le message.
La pollution lumineuse, un avis de Michael qui nous dit bon, Michael est enseignant et il donne un cours d'environnement et il estime que la pollution lumineuse est beaucoup trop importante et que ça a un impact sur l'environnement et en particulier sur la biodiversité. Alors, avec nous pour en parler, évidemment, Emmanuel Jeun, astrophysicien, et aussi Francis Venter. Donc, je rappelle, vous êtes président de l'association pour la sauvegarde du ciel et de l'environnement nocturne. On l'a dit, les lumières artificielles des villes, les lumières des autoroutes empêchent de voir de plus en plus ce qu'il y a dans le ciel. Et c'est vrai que selon que l'on regarde le ciel depuis une grande ville, que ce soit Bruxelles, Liège, Charleroi ou depuis les Alpes suisses, on ne va pas voir la même chose dans le ciel, Monsieur Venter.
Non, ça c'est sûr. Bon, à Bruxelles, vous n'avez à votre disposition que très peu d'étoiles, hein. Une vingtaine, je pense. L'étoile polaire, vous ne la verrez pas. La Voie lactée, vous pouvez oublier. Mais il faut dire aussi que la pollution lumineuse est un phénomène qui se voit de loin. C'est-à-dire, vous quittez Bruxelles, il ne faut pas croire qu'à 10 km, ça va aller parfaitement. Oui. Vous devez vous éloigner. Mm-hmm. Elle peut être vue de très très loin. Par exemple, la pollution lumineuse de Paris, vous allez à 150 km, vous voyez encore le halo lumineux. Mm-hmm. Donc, il n'y a pas de barrière physique pour empêcher la lumière de passer. Donc, vous pouvez être embêté un peu partout en Belgique. Bah, bon, d'ailleurs, bon, Emmanuel disait à Spa, on a un beau ciel. Bon, moi, je viens du club de Neuchâtel. Là aussi, on a un ciel plus ou moins préservé. Mais il faut dire qu'on n'a plus accès au ciel noir. Parfaitement noir. Mmh. En Belgique, ça a complètement disparu.
Mmh. Et c'est vrai que si on compare la situation, enfin en tout cas la vision à l'œil nu possible, il y a 30 ans, et aujourd'hui, je disais si on compare, mais il n'y a plus de comparaison possible.
Oui. Mmh. Il y a un monde de différence. Je pense que la plupart de nos grands-parents, tous, voyaient la Voie lactée quand ils sortaient de chez eux. Oui. Aujourd'hui, il faut bien se rendre compte que donc l'origine du phénomène de la pollution lumineuse, c'est que vous avez une grande quantité d'énergie lumineuse, de lumière, qui va directement vers le ciel. Mmh. On estime que 30% à 40% de la lumière émise par nos lampadaires, au lieu d'aller vers le sol, qui est leur direction, utile, part vers le ciel. Uh-huh. Et donc éclaire le ciel, crée un halo lumineux autour des grandes villes ou le long des axes routiers s'ils sont éclairés. Uh-huh. Et comme nous avons quand même en suspension dans l'air beaucoup d'humidité et de poussière, tout ça crée un environnement lumineux total. Et donc comme Francis l'a dit, en fait si on regarde en Europe, par exemple en France, il n'existe plus qu'une petite région au centre de l'Auvergne qui est complètement toujours exempte de pollution lumineuse. Uh-huh. Où là on peut retrouver le ciel tel que pouvaient le voir nos arrière-grands-parents.
Oui, c'est le triangle du Quercy, si je me souviens bien.
Oui, c'est ça. C'est d'ailleurs une réserve naturelle maintenant qui a été mise là-bas pour essayer de conserver cette petite région encore protégée.
Alors, notre auditeur, là, Michael, dit effectivement qu'elle est trop importante et elle a un impact sur l'environnement, sur la biodiversité. C'est vrai que les conséquences de la pollution lumineuse, elles sont multiples et elles touchent différents aspects. Alors, le grand public, on va dire le public lambda, nous autres, enfin, pas vous deux, mais moi et tout le monde, qui n'ont pas de formation particulière, on lève les yeux et on ne voit plus grand-chose. Je disais dans l'introduction, 3/4 des Belges ne voient plus la Voie lactée, 1/5 de l'humanité aussi. Ça veut dire qu'au-delà de la perte, je dirais, de ce patrimoine visuel, il y a quand même la perte d'un lien avec l'univers dans lequel on vit. Et ça, c'est important, le fait de ne plus voir tout cela.
Oui, tout à fait, on est déconnecté du ciel, ça c'est sûr. Mais bon, pour répondre à la question de l'auditeur au sujet des impacts sur la faune animale, enfin sur la faune tout simplement, et sur la flore, il faut dire aussi que bon, l'homme est un animal diurne, et on a tendance à imaginer que parce que nous dormons, la vie dort, mais... Il n'en est pas question, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Si on calcule la biomasse animale et qu'on met sur un plateau la biomasse animale nocturne et la diurne, vous verrez que ça penchera du côté de la nocturne. Donc la plupart des animaux sont des animaux nocturnes, vivent la nuit. Et il est faux d'imaginer que d'installer des lampadaires comme ça partout, ça ne va pas les perturber. Bien sûr que ça les perturbe parce que il y a une faune qui est photophobe, donc
qui n'aime pas la lumière.
Elle quitte leur biotope si vous amenez la lumière. Il y a aussi d'autres espèces qui sont un peu moins gênées, mais d'une manière générale, les espèces nocturnes sont perturbées.
Mais alors, il y a un nombre quand même, parce que quand on dit ça a un impact sur la faune, la flore, il y a un nombre conséquent d'espèces qui régressent ou même qui disparaissent en partie à cause de cette pollution lumineuse. Il y a beaucoup d'animaux qui ont besoin, par exemple, de l'obscurité pour se nourrir et échapper à leurs prédateurs. Forcément que s'il y a des éclairages monstrueux partout, ça cause des problèmes.
Il y a beaucoup, beaucoup d'exemples. Moi, je ne suis pas spécialiste dans le domaine, mais je pense qu'un lampadaire a la capacité d'attirer les insectes sur quasi un kilomètre à la ronde.
Ah oui.
Et les insectes adorent aller vers la lumière. Et donc, ce sont vraiment... On les a comparés à des insecticides hyper puissants parce que ça attire tous les insectes sur un kilomètre à la ronde qui vont aller éventuellement se griller ou rester collés au lampadaire sans faire normalement ce qu'ils devraient faire dans leur vie normale. On constate des choses étonnantes, comme des oiseaux diurnes qui se mettent à chanter la nuit à côté d'un lampadaire. On peut même constater, je pense, que des études ont montré que les feuilles des arbres changent à proximité d'un lampadaire.
Elles tombent beaucoup plus tard. C'est-à-dire, quand vous avez un lampadaire près d'un arbre, vous pouvez voir que les feuilles du côté du lampadaire restent sur l'arbre. Alors que normalement, elle devrait tomber, en hiver, elle devrait tomber. C'est le cycle de la plante et de l'arbre est perturbé.
Alors, on va revenir à l'influence de la pollution lumineuse sur les animaux, sur les hommes aussi, parce que ça a des conséquences sur la santé aussi. Mais nous avons en ligne un auditeur, c'est Jean-Pascal qui souhaite poser une question. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Voilà, on vous écoute, monsieur.
Je me permets de vous appeler parce que quand j'ai entendu que ce prix Nobel récompensait la découverte d'une énergie sombre ou énergie noire, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Nikola Tesla, dont on parle beaucoup sur Internet, comme étant probable découvreur d'une énergie du vide, dont il aurait détruit les preuves et les moyens d'exploitation au moment de sa découverte pour éviter les applications militaires. Aujourd'hui, sur Internet, on trouve, dans la gamme des grandes rumeurs, beaucoup de groupes et de discussions, d'articles à propos de cette découverte de Nikola Tesla et du fait que ça serait éventuellement réquisitionné par des lobbies américains pour empêcher évidemment une concurrence à l'égard de ce qu'on peut payer, puisque les banquiers à l'époque auraient répondu à Nikola Tesla « Oui, mais où allons-nous brancher le compteur ?» Or, c'est une énergie, a priori, qui est disponible dans le vide un peu partout autour de nous et qu'il est absolument impossible, évidemment, de taxer. Et donc, je me demande s'il y avait un rapport éventuel qu'on pourrait faire entre cette énergie du vide que Nikola Tesla aurait découverte plus du siècle passé et cette énergie sombre ou noire que nous semblons découvrir aujourd'hui.
Alors, merci pour cette question, monsieur. Et il nous reste une petite minute avant les titres du 13h. Donc, si Emmanuel Jean n'a pas fini son explication, on la recontinuera. À mon avis, ça ne sera pas suffisant. D'abord, juste un truc pour répondre à Jean-Pascal. C'est ce qu'on a découvert maintenant et ce pourquoi les Nobel ont été récompensés. C'est pas la découverte de l'énergie noire ou de l'énergie du vide, mais c'est l'effet de l'énergie noire sur l'accélération potentielle de l'expansion de l'univers. C'est ça qui est en question.
Oui, c'est-à-dire qu'ici, le nom qu'on a donné d'énergie noire, sombre, dark energy, comme on dit normalement en anglais, qui a été traduit, c'est pour, en effet, traduire quelque chose que l'on ne connaît pas. En fait, tout le grand mystère dans cette découverte, c'est que cette fameuse énergie dark energy, on ne sait pas ce que c'est aujourd'hui. C'est peut-être simplement un problème dans nos équations de physique, où ce sont des particules en effet élémentaires, énergétiques, trop massive qu'on n'arrive pas à détecter, ou énormément de particules extrêmement légères aussi qui échappent à nos détecteurs. Donc on ne sait pas aujourd'hui ce dont il s'agit. On en a besoin pour expliquer des observations que font les astronomes qui viennent d'être récompensés par le prix Nobel. Et je pense que ça n'a absolument rien à voir avec, je vais dire, l'énergie noire dont parlait Tesla il y a bien longtemps.
Et ce fameux Tesla, est-ce que c'est susceptible d'être intéressant, c'est une référence, ou bien est-ce qu'on a un peu laissé ça de côté, on va dire?
Personnellement, je ne vois pas très bien de quoi il s'agit, ça m'a peut-être échappé dans mes cours de physique, mais là, je ne pourrais pas commenter plus là-dessus, je n'ai rien lu de particulier à ce sujet.
Très bien, mais en tout cas, Jean-Pascal, j'espère qu'on a répondu à votre question, et c'est vrai que sur Internet, il y a évidemment une quantité, une foule de choses qui partent parfois un petit peu dans tous les sens. C'est aussi pour ça qu'on fait des émissions, pour essayer de remettre les choses dans le bon ordre. Merci en tout cas pour votre intervention. On va se quitter un instant et se retrouver après les titres du journal de 13h.
Vos avis, questions et commentaires sur la page Facebook Le Forum de Midi.
La nuit de l'obscurité aura lieu ce samedi 15 octobre. Ceci pour sensibiliser un peu tout le monde à la pollution lumineuse dont nous parlions il y a quelques instants, avec ses effets multiples sur notre vision évidemment du ciel forcément, celle des astronomes aussi qui, Emmanuel Jehin, malgré les instruments très performants, les astronomes voient effectivement, ou les astrophysiciens, des différences de vision évidemment dans les endroits où c'est fort enluminé.
Absolument, oui. Donc il y a une cartographie assez précise qui a été faite sur Terre grâce notamment aux satellites artificiels. Et bon, là, on peut se targuer que la Belgique est visible, les astronautes le disent d'ailleurs toujours, très facilement depuis l'espace, comme un gros poids lumineux. Bon, évidemment, c'est la Belgique, puis c'est aussi évidemment Amsterdam, Rotterdam, Paris. Donc ça fait vraiment un gros poids lumineux sur la carte du monde. Mais en réalité, c'est très très bien corrélé, la pollution lumineuse, avec la présence de la civilisation, évidemment, dans les grandes villes, etc. Nous, ce qu'on veut dire, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, où on cherche partout à diminuer les pollutions diverses, où on essaye de rendre notre environnement meilleur, il est quand même assez étonnant qu'on ne s'est pas encore penché de façon vraiment sérieuse sur le problème de la pollution lumineuse, qui est une véritable pollution, comme on vient de le dire, parce qu'elle gâche le patrimoine mondial de l'humanité qui est le ciel. Mais beaucoup de gens pourraient dire, bon, finalement, c'est pas si important que ça, mais pose des problèmes pour la faune et la flore, mais également, ce qu'il faut se rendre compte, est un véritable gaspillage d'énergie et donc d'argent. Parce que cette lumière qui part vers le ciel n'est pas évidemment faite pour aller vers le ciel, mais pour éclairer les choses qu'elles sont censées éclairer. Et toute cette énergie, on la paye, on la produit dans nos centrales, et finalement, en quelque sorte, elle contribue à l'effet de serre de façon tout à fait inutile, puisqu'elle n'est pas utilisée de façon rationnelle.
Alors justement, à cet égard, nous avons au téléphone à l'instant Daniel qui souhaite intervenir. Je pense que c'était précisément un peu par rapport à cette dépense inutile que vous souhaitiez intervenir, monsieur.
Tout à fait, oui.
On vous écoute.
Oui, en fait, cela m'étonne même que dans une période de décroissance dans laquelle nous sommes entrés définitivement, parce qu'on parle toujours de rétablir la croissance, en fait, il n'y aura plus de croissance.
Oui, ça, c'est que encore autre chose, oui.
Non, je veux dire, c'est encore autre chose. Dans ce contexte, on peut dire qu'il est impératif de faire des économies au niveau de l'énergie concernant l'éclairage public. Donc ça devrait déjà être d'application.
C'est ça, oui. Mais d'ailleurs, Emmanuel Jehin, on peut peut-être, ou également vous, bien sûr, Francis Venter, que font nos pays voisins, par exemple? Je crois qu'en Italie, il y a une loi, en Tchéquie aussi, non?
Oui, en Tchéquie, en Slovénie, en Espagne aussi. Et maintenant, en France, avec le Grenelle de l'environnement, ils commencent à introduire cette notion de pollution lumineuse. Nous, ce que on aimerait bien dans un premier temps, c'est qu'elle soit reconnue comme une véritable pollution dans les textes, parce que ce n'est pas le cas.
Est-ce qu'il y a quelque chose d'ailleurs dans les textes pour reprendre ce que Daniel nous faisait remarquer à l'instant?
La définition du terme pollution qu'on peut retrouver à certains endroits. Il n'y a pas cette notion de pollution lumineuse, pollution par déchets, pollution de l'eau, pollution sonore à la limite, ou par radiation, mais pas pollution lumineuse, elle n'est pas reprise.
Oui, il n'y a pas de réglementation à ce niveau-là, donc c'est ça qui est assez étonnant finalement.
Oui, ce qu'on aimerait bien, nous, c'est qu'il y ait une réglementation, mais de bon père de famille quelque part, pour éclairer comme il faut, ce qu'il faut, et pas plus, hein.
C'est ça, oui. D'autant que les effets économiques, alors moi j'ai lu 40% à peu près représentent une dépense inutile. Donc ça veut dire qu'on pourrait économiser 40% d'énergie, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le dire. Si on éclairait un peu normalement, quoi.
Il y a des luminaires en Belgique, comme les luminaires boules. Quand on fait le bilan de ça, c'est presque 60% de la lumière qui est gaspillée.
Puisqu'il y a de la lumière qui part vers le haut,
c'est des lampadaires souvent bon marché, donc un globe translucide qui déjà absorbe une partie de la lumière, et ce qui parvient à sortir, il y a plus de la moitié qui part dans le ciel ou dans les yeux. Donc il resterait peu en fait pour éclairer le sol. Ce sont des lampadaires épouvantables, mais que l'on trouve encore un peu partout.
Est-ce que des associations comme la vôtre, donc je répète, pour la sauvegarde du ciel, l'environnement nocturne, l'ASCEN ou l'ASCEN, représentent un groupe de pression vis-à-vis des politiques ou des décisions politiques, ou même des groupes d'astronomie comme le vôtre, hein, Emmanuel Jehin? Est-ce que vous avez l'impression est-ce que vous prenez la parole auprès des politiques? Est-ce que vous avez, si oui, l'impression d'être entendu?
Mais c'est une association qui est relativement récente. Hein.
Donc, oui, c'est 5 ans à peu près, non? 2006,
oui. Regroupant des astronomes amateurs, des naturalistes, etc. Je veux dire, notre objectif principal d'abord est de faire que les gens se rendent compte que le problème existe. Évidemment, parmi les gens, il y a les politiques, et on peut espérer qu'ils puissent capter le message, puisque dans les communes, par exemple, avec l'augmentation du prix de l'électricité, la facture liée aux éclairages dans les communes a monté en flèche depuis quelques années et représente un budget tout à fait conséquent dans l'énergie, dans le budget énergétique des villes. Oui. Donc je pense qu'il serait tout à fait logique et bénéfique, et d'ailleurs il y a plusieurs villes en Belgique qui ont décidé d'éteindre l'éclairage pendant la nuit par exemple pour faire des économies. Il serait tout à fait logique que sur les territoires de certaines des communes, on commence à prendre à bras le corps ce problème. Le problème qu'on a, c'est qu'on n'éclaire pas bien. On n'éclaire pas nécessairement quand il faut, et on n'éclaire pas nécessairement où il faut. Quand on commence à regarder un petit peu tout ça de près, on voit qu'il y a vraiment moyen d'améliorer fortement la qualité de l'éclairage. En construisant des lampadaires bien abat-jourés, pour empêcher qu'une grosse partie de la lumière n'aille vers le haut, en réglant la quantité de lumière qu'on émet, parce que le problème, généralement, on émet beaucoup trop, ils sont beaucoup trop brillants, nos lampadaires, avec nettement moins d'énergie, on pourrait y arriver. Et tous ces exemples-là, c'est déjà repris, comme vous le disiez, dans d'autres pays. Oui. Par exemple, en Norvège, à Oslo, automatiquement, la nuit, après une certaine heure, vous avez l'éclairage qui diminue d'intensité très fortement. C'est 30 ou 50%. Mais derrière, c'est cette économie d'énergie que vous faites. Après, on peut se demander si c'est nécessaire d'éclairer toute la nuit des routes de campagne aussi. Oui. Donc là, on pourrait très bien également...
En tout cas, ce qui est montré, et ça je pense que c'est le ministère de l'équipement ici et des transports en Belgique, montrer que les autoroutes très très éclairées sont beaucoup plus susceptibles de provoquer des accidents graves, parce que les gens roulent plus vite quand elles sont très éclairées. Donc
tout à fait.
C'est ça. Hein,
le problème qu'on allie souvent, c'est éclairage avec sécurité. Et on a d'ailleurs le problème concret quand on veut organiser la nuit de l'obscurité et qu'on demande par exemple à la ville d'éteindre l'éclairage sur la place de l'hôtel de ville à Spa, on entend dire ah oui, mais ça va causer des problèmes au niveau de la sécurité, est-ce qu'il va pas y avoir des vols, etc. Donc c'est clair qu'on a tellement l'habitude de vivre dans un environnement tellement éclairé que dès qu'on se retrouve un peu dans le noir, on a un peu un sentiment de peur. Alors ici, la question n'est pas d'éteindre l'éclairage partout, mais de faire une réflexion sur éclairer bien, éclairer mieux quand il faut, où il faut et avec la bonne quantité.
Sur les conséquences, parce qu'on a parlé des animaux tout à l'heure, il y a des... En Amérique du Nord, alors je lis qu'il y a plus de 100 millions d'oiseaux qui meurent chaque année parce qu'ils se crachent contre des constructions super éclairées. Francis Venter, c'est exact.
Oui. Il y a une ville, je crois que c'est Toronto, qui a adopté un règlement en demandant au bureau d'éteindre ou d'occulter les fenêtres à partir d'une certaine heure. Et ils ont divisé le nombre de chocs de volatiles sur les fenêtres par 5.
En Floride, je pense que c'est en Floride où les autorités de certaines villes du littoral ont décidé de diminuer l'éclairage du littoral parce que ça causait des hécatombes de tortues. C'est-à-dire que comme les tortues viennent pondre sur la plage, les jeunes, au lieu d'aller vers la mer, se dirigeaient vers les lumières, se faisaient écrabouiller sur les autoroutes.
Instinctivement, elles vont vers la mer parce que la mer est éclairée par les étoiles et par la lune, et il y a une faible lumière et c'est ça qui les attire en fait. Alors, évidemment, si vous mettez un lampadaire à côté de la plage, elles font demi-tour, elles vont vers le lampadaire et elles se perdent, elles sont dévorées le lendemain par des oiseaux ou par des chiens ou écrasées par des voitures. Il y a des études qui ont été faites et qui montrent effectivement, qu'il y a là un réel souci quand on met des lampadaires.
Mmh. Alors, cette nuit de l'obscurité, puisqu'on en parle ce samedi, il va, l'idée, c'est de demander aux communes d'éteindre un maximum, vous venez d'en parler, Emmanuel Jehun, éteindre l'éclairage public et puis organiser des activités chez vous, dans votre coin. Qu'est-ce qui va se passer en particulier?
Oui, donc à Spa, il y a eu une synergie très intéressante qui s'est mise en place depuis quelques années avec l'administration communale, la ville de Spa, et notamment la cellule énergie de la ville de Spa, où on allie en effet et d'autres partenaires, comme par exemple le Crier de Berinzen, donc je vais dire des guides nature. Et là, l'idée est de se mettre tous ensemble pour montrer justement à la population les différents aspects de cette pollution lumineuse. Donc à Spa, nous accueillons le public à partir de 20h30 à la place de l'hôtel de ville et dans l'hôtel de ville, où nous aurons notamment une exposition donc d'astronomie, des observations du ciel par les astronomes du club de Spa avec leur télescope, mais également une marche au flambeau, par exemple, pour avec les enfants, etc. Et l'année passée, ça avait eu un grand succès. Il y a eu une bonne centaine de personnes qui étaient venues se balader sur les coteaux de Spa avec les flambeaux pour justement un peu redécouvrir la nature le soir. Là, accompagné par des conteuses, par exemple, qui racontent des petites histoires aux enfants. Puis, nous avons également des gens pour présenter les oiseaux nocturnes, chouettes, rapaces nocturnes. Donc, pour les enfants,
chauves-souris aussi, voilà, qui souffrent beaucoup de cette pollution lumineuse, parce que quand on éclaire les porches ou les porches des églises, etc., où les chauves-souris sont censés aller, ben, y a un problème de ce côté.
Oui, disons que tous les animaux nocturnes, bon, je crois que les chauves-souris, elles ne voient pas la lumière, donc peut-être pour qu'elles c'est un petit peu moins grave.
Elles supportent pas la lumière.
La majorité des espèces, il y a quelques espèces qui la supportent, mais la majorité ne la supporte pas. Donc, il suffit d'éclairer une grotte ou des rochers pour qu'elles ne viennent plus. D'ailleurs, à ce propos, il y a une opération Comble et Clocher en Wallonie pour attirer les espèces nocturnes comme les rapaces et les chauves-souris.
En diminuant cet éclairage
Ils font des aménagements dans les églises, mais parfois ils font les aménagements en laissant les lumières, quoi. Mais la première chose à faire, c'est d'éteindre. C'est la première chose à faire.
En un mot, avec vous, Francis Wender, à Neuchâtel, vous êtes sur Neuchâtel, vous. Il y a aussi des activités à la nuit de l'obscurité organisées par votre association.
On a deux de nos membres qui font la nuit de l'obscurité à la ferme des Fées, donc on va aller là.
Mais il y en a un petit peu partout en Wallonie, j'imagine.
Il faut aller sur le site, je peux donner l'adresse, www.nuitdelobscurité.be.
Voilà.
Et il y a une carte de Wallonie où vous pouvez voir les différentes communes qui organisent des activités.
Et il y a des activités également à Bruxelles.
Et en Flandre.
Et à Bruxelles, nous avons par téléphone à l'instant Véronique Bastin. Bonjour.
Oui, bonjour.
Voilà, vous êtes au planétarium de l'Observatoire Royal. Vous êtes au service pédagogique. Alors, il va y avoir, là aussi, sur Bruxelles, toute une série d'activités depuis le site du Rouge Cloître, je pense, lors de cette nuit d'obscurité. En quelques mots, vous pouvez nous dire de quoi il s'agira ?
Oui, bien sûr. Donc, nous suivons effectivement l'événement Rouge Cloître à Oudergem depuis 3 ans. Et il va y avoir donc une sensibilisation au public pour la problématique de la pollution lumineuse, comme vous venez d'en parler, du gaspillage énergétique, bien sûr. Et nous aurons donc toute une série d'activités qui auront lieu sur le site. Donc, à savoir des conférences qui seront bien sûr accessibles à tous. Donc, c'est vraiment pour un public familial. Il y aura également des contes avec des balades contées, des contes en musique, puisqu'on aura aussi un musicien sur place. Il y aura des ateliers qui vont se faire... qui auront lieu également donc sur le thème de la pollution lumineuse. Pour les enfants, plus spécifiquement, il y aura des lancements de fusées à eau, des bricolages sur le thème de la nuit, une enquête sur base d'énigmes, donc tout ce genre de choses. Et évidemment, plusieurs clubs d'astro qui seront présents sur les lieux avec leurs instruments et qui permettront aux familles présentes de connaître un peu mieux le ciel étoilé également.
Alors, notre émission d'aujourd'hui suscite un certain nombre de réactions de la part des auditeurs, notamment un auditeur qui se demande comment sensibiliser les pouvoirs publics à cette pollution lumineuse. Est-ce que, on en a parlé très rapidement tout à l'heure, mais est-ce que tous ces groupes d'astronomie ne se réunissent pas tous ensemble, Véronique Bastin, pour déposer une pétition ou faire quelque chose auprès des ministres en charge de l'environnement, par exemple?
Oui, mais c'est vrai que c'est une action qu'on voudrait promouvoir plus, ça c'est certain. Maintenant, c'est vrai qu'il n'y a pas spécialement d'action comme des pétitions, comme vous le soulignez. Mm-hmm. Il n'y a pas spécialement de pétitions qui sont organisées, mais c'est vrai que les personnes qui font de l'astronomie essayent effectivement de sensibiliser les ministres à cette problématique. Maintenant, c'est vrai que les actions devraient peut-être être un petit peu plus nombreuses, certainement.
Et plus unies, peut-être, plutôt de faire chacun dans son coin. En tout cas, merci beaucoup, Madame Bastin. Oui, Emmanuel.
Oui, c'est bien sûr le but de l'association de protection de l'environnement du ciel nocturne. C'est, comme le disait Francis, c'est une association très jeune, on se met en place, on a justement regroupé, fédéré en quelque sorte les clubs d'astronomie.
Oui, parce que dans le temps, on avait tendance à lutter chacun de
dans
notre
son coin.
Dans son petit coin.
Ouais.
Et bon, on espère aussi attirer... Oui. Plus de naturalistes.
Oui. Donc l'organisation d'une journée nationale, puisque c'est également en Flandre, est un premier pas justement pour ouvrir un petit peu les yeux aux gens. Et moi, je serais politicien dans une commune, je crois que la première chose que je regarderais, c'est la note, la facture d'électricité. Et puis je me dirais, où est-ce qu'il y a peut-être moyen de gagner et d'éventuellement couper un certain éclairage. Uh-huh. Et par rapport à la discussion sur la sécurité, qu'on n'avait peut-être pas tout à fait terminée, mais comme vous l'avez bien dit, il y a eu beaucoup d'études qui ont montré qu'en fait, c'était un sentiment contraire. En fait, quand on pense être en sécurité sur l'autoroute, parce qu'il y a des lumières, c'est vrai que c'est plus confortable, il ne faut pas le dénier, mais les gens ont tendance alors à rouler plus vite le soir quand ils sont plus fatigués. Mmh. Et un exemple flagrant, c'est qu'en France, ils ont essayé d'illuminer une autoroute et en fait... un ou deux ans après, ils ont finalement décidé de stopper l'éclairage parce qu'ils ont remarqué que statistiquement, il n'y avait plus d'accidents sur ce tronçon d'autoroute éclairé. Et donc, ils ont éteint l'éclairage et enlevé les poteaux qui sont un risque d'accident en plus parce que quand une voiture va s'encastrer dans un poteau, c'est un petit peu bête à dire, mais c'est un obstacle, évidemment.
Bien sûr. Alors, le week-end dernier, on a eu une grosse déception parce que on attendait avec beaucoup d'impatience la pluie d'étoiles filantes en provenance de la constellation du dragon. On en prévoyait 10 par minute, 600 par heure. Finalement, on n'a rien vu. Mais là, c'était pas à cause de la pollution lumineuse, pour faire un petit rapport avec l'émission d'aujourd'hui. Emmanuel Jehin,
c'était pas ça. Alors, les astronomes ne sont pas trompés. Ils ont été corrects dans leurs calculs. C'est même assez impressionnant, puisque le maximum, donc le pic d'activité, a eu lieu exactement quand il avait prédit à 10 heures du soir, heure belge. Malheureusement, dans notre pays, il a fait quasi complètement couvert partout. J'ai eu juste un ou deux rapports de gens qui ont observé quelques petites étoiles filantes dans des trouées aux alentours de Bruxelles. Par contre, dans d'autres endroits d'Europe où il a fait bien dégager, le spectacle a été tout à fait impressionnant, puisque pendant une demi-heure, donc ça a été un pic très marqué, pendant une demi-heure de 10h moins quart à 10h quart, ils ont pu voir toutes les 5 minutes environ 40 étoiles filantes. Nous, ici en Belgique, on a dû se contenter de suivre la détection des étoiles filantes avec notre réseau d'antennes Brahms. Donc c'est un projet de l'Institut d'aéronomie spatiale de Belgique, en collaboration avec les clubs d'astronomie et quelques astronomes professionnels, où nous avons installé sur le territoire belge une vingtaine d'antennes en vue de détecter l'écho des météores. C'est un petit peu compliqué à rentrer dans le détail, mais grâce à ça, en fait, on entend les
étoiles filantes.
En quelque sorte, c'est ça. C'est écouter le chant des étoiles filantes. On a pu les enregistrer sur nos ordinateurs et faire un comptage précis, que nous sommes toujours en train de réaliser d'ailleurs, qui sera utile pour les scientifiques.
Alors, un mail de Jacques qui dit « Ayant eu l'occasion de concevoir le design d'appareils d'éclairage public, je peux vous dire qu'ils sont majoritairement équipés de miroirs destinés à diriger le flux lumineux vers le sol ou vers le bâtiment à éclairer. » C'est peut-être dans les récents, évidemment. Hein. Il existe aussi des armatures dites décoratives, nous écrit Jacques, qui sont destinées à créer une ambiance lumineuse sur des places ou des parcs. Et là, pas de miroir. Par contre, dit-il, dans les luminaires destinés au grand public, très souvent, il n'y a pas de miroir non plus, mais que dire des enseignes publicitaires et de ces écrans publicitaires géants qu'on commence à implanter un peu partout et qui diffusent une quantité impressionnante de lumière dans l'environnement. Voilà une réflexion. Il y a encore une partie à semer, mais
ce n'est pas que la faute, je dirais, de l'éclairage public. Hein. Il y a aussi l'éclairage privé, donc l'éclairage commercial, industriel et même résidentiel. De plus en plus de personnes transforment leur maison en parc lumineux. Et bon, tout ça participe quelque part au phénomène.
Et d'ailleurs, Jacques nous ajoute, parce que là, je vois la suite de son mail, en survolant les Pays-Bas de nuit, on peut voir aussi des étendues immenses de serres éclairées de nuit, et tout cela participe également de la pollution lumineuse. Quant au gaspillage d'énergie, pensez-vous que les terrasses chauffées soient vraiment une solution acceptable? Bon, c'est vrai que c'est sûr qu'il y a toute une quantité de dépenses au niveau de l'énergie sur lesquelles on pourrait discuter ici, on parlait évidemment oui. de la lumière. Mais je remercie Jacques pour sa réflexion. Oui, Francis Venter.
Résoudre le problème de la pollution lumineuse, c'est avantageux. C'est une des rares pollutions, c'est pas la seule, je dirais, qui permet de gagner de l'argent quand on lutte contre elle. Habituellement, si vous voulez épurer l'eau ou épurer l'air, ça vous coûte de l'argent. Là, vous pouvez améliorer vos luminaires sans mettre de grands frais quelque part, en mettant des ampoules un peu moins puissantes, des réflecteurs, etc. Et vous gagnerez, mais à très court terme, vous gagnerez de l'argent. C'est pour ça que parfois on a du mal de comprendre la réticence des pouvoirs publics à se pencher sur le problème. Ils disent oui, mais quelque part, ils ne font pas grand-chose. Alors, il faut dire dans les catalogues des éclairagistes, vous avez toutes sortes d'éclairages. Il y a des bons marchés qui éclairent mal, et puis vous en avez d'un peu plus chers qui éclairent bien. Nous, on aimerait bien qu'ils se penchent plutôt sur la deuxième catégorie.
Voilà, bien sûr.
Ils y gagneront, parce qu'un éclairage public, c'est pour 30 ans.
Et les solutions techniques existent. Il y a pas de
miracle. Les éclairagistes ont le matériel. Hein. Il suffit de l'utiliser.
Il y a des villes gigantesques, je vais dire, aux États-Unis, à Austin, par exemple, mais aussi en Italie, où ils ont décidé de remplacer sur un projet qui a duré 5 ans tous les lampadaires de la ville. Et une ville comme Austin, où il n'y a pas loin d'un million d'habitants, du centre-ville, les gens revoient la Voie lactée, par exemple. C'est juste pour donner l'image qu'on peut récupérer la Voie lactée d'une ville, d'une grande ville. Bon, évidemment, les conditions climatiques sont meilleures à Austin qu'à Bruxelles, par exemple, généralement. Mais c'est pour donner une image. Et tout le monde en profite, puisque, encore une fois, c'est de l'énergie qui n'est pas gaspillée et qui rentre. Il faut bien se rendre compte que la lumière qui nous éclaire, elle vient de centrales, que ce soit nucléaire ou au charbon, qui fonctionnent et qui peuvent participer également au problème du CO2. Donc tout ça se tient, je vais dire. On est vraiment gagnant-gagnant si on lutte contre cette pollution lumineuse.
Alors, vous reparliez de la Voie lactée. On en avait parlé au début de l'émission. Au début de l'émission, en faisant référence au Nobel, on avait aussi parlé de l'univers d'une façon un petit peu plus générale. Un mot là-dessus, c'est l'orbite basse, ce qu'on appelle l'orbite basse. Devient, dites-vous Emmanuel Jean, une vraie poubelle. C'est vrai que l'autre jour, avec la chute de ce gros satellite, on a quand même eu un petit peu des frayeurs pendant quelques jours en se disant « Ouh, sur qui va-t-il tomber ?» Et c'est vrai que dans cette orbite basse, il y a des dizaines de milliers d'objets perdus. Oui. Alors ça va du clou dans la boîte à outils d'un astronaute à des choses un petit peu plus importantes.
La boîte à outils, absolument.
Ou la boîte à outils tout entière. Mais ça pose quand même un gros problème et un danger potentiel à la fois pour les astronautes et pour les satellites, et puis peut-être pour nous aussi, ou pas? Ces objets qui sont là en suspension. Alors,
c'est ça. Ce qui est assez incroyable, c'est que depuis 50 ans, le début de la conquête spatiale, il faut se rendre compte qu'on a envoyé plus de 20 000 objets dans l'espace. Satellites, fusées, etc. Aujourd'hui, autour de notre tête, il y a 7 000 satellites artificiels qui tournent, mais il n'y en a seulement que 900 qui sont en fonctionnement. La plupart des choses qui se trouvent dans l'espace aujourd'hui sont des déchets, des détritus. Alors, il y en a à peu près 30 000 qui sont plus gros que 10 cm de diamètre, qui sont suivis continuellement par les grands radars du NORAD américain, qui est la défense spatiale américaine, notamment pour empêcher que l'un de ces morceaux vienne percuter de plein fouet à plusieurs kilomètres à la seconde et ne transperce de part en part la station spatiale internationale, par exemple. Les astronautes sont les premiers concernés. Ensuite, évidemment, les satellites artificiels qui coûtent beaucoup d'argent, qui sont dans l'espace, on essaye également d'éviter qu'ils rentrent en collision avec un détritus, une fusée, un étage de fusée, par exemple, parce que c'est la destruction assurée du satellite qui vaut plusieurs millions de dollars, généralement.
Est-ce qu'on pourra nettoyer ça un jour?
Non.
Non.
Alors,
d'accord.
Je crois que c'est très très difficile.
De façon économique, non.
Donc, c'est vraiment très très difficile. Il faut dire qu'on est aidé quand même par notre Terre, qui a une atmosphère qui a tendance à gonfler par période d'activité solaire plus grande, par exemple, et que c'est en fait le meilleur moyen de nettoyer l'orbite basse, c'est le freinage des satellites artificiels sur l'atmosphère. Donc, ils freinent, ils vont de moins en moins vite, ça veut dire qu'ils descendent, et puis à un moment, ils brûlent dans l'atmosphère, comme le fameux gros satellite qui est rentré récemment dans l'atmosphère. Donc ça a tendance à nettoyer l'orbite basse. Malheureusement, il y en a beaucoup qui vont mettre des centaines, voire des milliers d'années à redescendre et à retomber sur Terre. Et puis les autres, aller les chercher, ça paraît vraiment de l'impossible. On peut imaginer que sur l'orbite géostationnaire qui est à 36 000 km par contre, donc beaucoup plus loin de la Terre, ce sont les fameux satellites de télécommunication et d'observation de la Terre, on peut imaginer envoyer c'est quasi de la science-fiction, mais on peut imaginer envoyer des robots, des satellites particuliers qu'on appellerait des robots dans cette zone pour éjecter de la zone, je vais dire, géostationnaire, tous ces satellites morts pour pouvoir en remettre des nouveaux.
Et pour pouvoir traverser de nouveau cette orbite sans trop de problèmes, quoi. Voilà, parce que c'est ça aussi, il faut qu'elle reste accessible.
Absolument. Oui. Et là, le problème, c'est qu'on est en train d'atteindre un point assez critique. Il y a tellement de morceaux de fusées cassées, de détritus par des explosions d'anciennes fusées, etc., dans l'espace, que dans une zone autour de 1000 km d'altitude, on risque d'atteindre en 2015 un état où il y a tellement de collisions entre ces détritus que ça crée une sorte de nuage continu, on va dire, dans cette zone-là, et qu'on ne puisse plus aller y mettre des satellites.
Alors, il nous reste même pas une minute, Emmanuel Jehun. J'ai pas encore eu le temps de vous demander des nouvelles de votre télescope.
Merci, c'est gentil.
Trappiste, donc, télescope de l'Université de Liège, qui se trouve dans la Katamal, là, au Chili. 10 exoplanètes découvertes, confirmées en 6 mois. Oui. Vous pouvez nous dire ça en 10 secondes, oui?
Oui, tout à fait. Donc, ce petit télescope robotique est en train de chercher d'autres mondes, en fait, autour d'autres étoiles. Et là, en 6 mois d'activité avec ce télescope de l'Université de Liège, donc, nous avons confirmé, en fait, 10 était il y a un petit temps. Là, on est déjà à environ 15 exoplanètes. On en a observé 100 candidats. Parmi, donc, ces 100 candidats, nous avons pu confirmer que 15 d'entre elles étaient bien des planètes qui tournaient autour de leur étoile.
Très bien. Vous viendrez nous en parler plus en détail, évidemment. Et je précise à nos auditeurs et internautes qui nous demandent des informations sur la nuit de l'obscurité, que tout sera mis sur notre site et sur le site de notre émission Forum de Midi. Merci mille fois à Emmanuel Jehun et à Francis Venter d'avoir été avec nous. Merci à Robert Pollec, Valérie Leput et Catherine Sorel. À demain pour un nouveau Forum de Midi.
Retrouvez le Forum de Midi tous les jours de la semaine, de midi à 13h sur la première.